Parvenons aujourd'hui au terme de ce parcours, Henri Van Lier, et vous avez choisi Claude Simon, non pour conclure, mais pour nous donner à entendre comment la littérature sait rendre compte des fonctionnements dominants d'une époque.
Sans doute que l'événement intellectuel le plus important depuis les années 1950, c'est l'introduction puis la prédominance progressive de la notion de processus. Il faut bien mesurer les choses, il faut se rendre compte que depuis 1100 environ, jusqu'à, disons, les années 1900-1950, tout le monde occidental avait été dominé par la notion d'objet, dont la notion de sujet est elle-même corrélative. Et pour voir d'ailleurs toute la force de cette présence de l'objet que nous avons perçue à travers tout le parcours que nous avons fait, il faut bien se rendre compte que les Grecs n'avaient pas la notion d'objet. Pour eux, il n'y avait que des kthéma, thémata, des choses qu'on acquérait, des krémata, des choses qu'on utilisait, et des pragmata, des choses que l'on pratiquait. Et les Latins qui pouvaient créer le mot objectum ne l'avaient pas créé. Ils avaient objicere, il y avait objectum qui était le supin d'objicere, jeté en travers. Mais il n'y avait pas cette notion d'objet qui éclate donc vers les années, disons, 150 dans le terme d'objectum. Quelque chose dans l'environnement est jeté, yectum, ob, en travers devant quelqu'un. Et cette nouvelle situation où on appréhende globalement comme ça quelque chose devant soi va devenir tellement importante qu'on va retrouver objet en néerlandais, voorwerp, jeté devant. On va le retrouver en allemand, Gegenstand, tient devant. Et enfin, en russe, priednyet, également jeté devant. À partir de 1950, l'objet n'est plus à l'avant-plan, de même que le sujet, et entre en piste, entre en scène le processus. Que les dictionnaires définissent encore souvent comme une succession d'états qui va vers un but, et en fin de compte, il faut laisser tomber progressivement la dernière partie de cette définition, c'est une succession d'états, mais qui ne vont pas nécessairement vers un but. L'univers est pour nous un ensemble de milliards de processus qui se compénètrent, qui se chevauchent, qui ne vont pas nécessairement vers un but, comme l'avait dit Samuel Beckett dans « En attendant Godot », quelque chose suit son cours. Eh bien, l'œuvre de Claude Simon, et en particulier La route des Flandres, qui en quelque sorte embrasse cette œuvre, est, pourrait-on dire, l'apothéose, non pas seulement du processus, mais des processus en chevauchement. Je prends le passage dans La route des Flandres où on est en 1939 pendant la drôle de guerre. C'est une marche de nuit de cavaliers dans la pluie. Et à un moment, la pluie commença à tomber. Elle aussi monotone, infinie et noire. Et non pas se déversant, mais comme la nuit elle-même, englobant dans son sein homme et monture. Ajoutant, mêlant son imperceptible grésillement à cette formidable, patiente et dangereuse rumeur de milliers de chevaux allant par les routes, semblable au grignotement que produiraient des milliers d'insectes rongeant le monde. Au reste, les chevaux, les vieux chevaux d'armes, les antiques et immémoriales rosses qui vont sous la pluie nocturne le long des chemins, branlant leurs lourdes têtes cuirassées de méplats, n'ont-ils pas quelque chose de cette raideur de crustacés? Cet air vaguement ridicule, vaguement effrayant de sauterelles, avec leurs pattes raides, leurs os saillants, leurs flancs annelés évoquant l'image de quelque animal héraldique, fait non pas de chair et de muscles, mais plutôt semblable, animal et armure se confondant, à ces vieilles guimbardes, aux tôles et aux pièces rouillées, cliquetant, rafistolés à l'aide de bouts de fil de fer, menaçant à chaque instant de s'en aller en morceaux, rumeur qui, dans l'esprit de Georges, avait fini par se confondre avec l'idée même de guerre. Le monotone piétinement qui emplissait la nuit semblable à un cliquetis d'ossements, l'air noir et dur sur les visages comme du métal, de sorte qu'il lui semblait, pensant à ces récits d'expédition au pôle, où l'on raconte que la peau reste attachée au fer gelé, sentir les ténèbres froides adhérer à sa chair, solidifier comme si l'air, le temps lui-même, n'était qu'une seule et unique masse d'acier refroidi, comme ces mondes morts, éteints depuis des milliards d'années et couverts de glace, dans l'épaisseur de laquelle étaient pris, immobilisés pour toujours, leurs vieilles carnes macabres, leurs éperons, leurs sabres, leurs armes d'acier, tout debout et intact, tel que le jour lorsqu'ils se lèveraient, les découvriraient à travers les épaisseurs transparentes et glauques, semblables à une armée en marche, surprise par un cataclysme, et que le lent glacier, à l'invisible progression restituerait, vomirait dans 100 ou 200 000 ans de cela, pêle-mêle avec tous les vieux lansquenets, reîtres et cuirassiers de jadis, dégringolant, se brisant dans un faible tintement de verre, à moins que tout ça ne se mette aussitôt à pourrir et puer, pensa-t-il, comme ces mammouths.
Donc ici, tout est processus. Les voyelles, qui s'appellent l'une l'autre, les « en » particulier, les « a » nasalisés, les consonnes, les morphèmes, les formes des mots, tout le jeu de la syntaxe, à un moment et non pas semblable au, de sorte que, comme, tout cela étant agrégatif, ou à certains moments disjonctif, mais de façon très brève, tout cela émergeant et fondant. Donc il y a un double mouvement perpétuel. À chaque instant, la pâte monte, et à chaque instant, elle se déprime. Et tous ces processus se compatibilisent et se décompatibilisent dans une chimie gigantesque. Donc nous ne sommes plus chez Mallarmé. Il ne s'agit plus de cette mer étale qui alors va donner des vagues qui vont revenir à l'horizontalité de l'océan. Ça, c'est une vue mécanique. Non, il s'agit de chimie, de quelque chose qui va s'agglutiner pour finir donner des organismes qui seront minéraux, sortes d'organismes minéraux, puis végétaux, puis animaux, et en même temps redescendent ou s'écroulent. Je prends une course de chevaux un peu avant la drôle de guerre, pour qu'on sente la même mécanique mais sur un rythme plus rapide. Ils apparurent enfin après le dernier arbre, toujours dans le même ordre. La tache, la pastille rose, toujours en même position. Tandis qu'ils entamaient la dernière partie du tournant, le peloton se muant peu à peu en une masse confuse, les derniers semblant rattraper les premiers, qui, tout au fond de la ligne droite, ne fut plus qu'une houle, un moutonnement de têtes montant et descendant sur place, les chevaux agglomérés en paquets, paraissant un moment ne plus avancer, simplement les tocs des jockeys montant et descendant, jusqu'à ce que soudain, le premier cheval non pas franchi, mais creva la haie, c'est-à-dire que brusquement il fut là, les deux pattes de devant projetées devant lui, raides, jointes, ou plutôt l'une d'elles légèrement en avant de l'autre, les deux sabots pas tout à fait à la même hauteur, le cheval engagé jusqu'à mi-corps entre les fagots bruns qui surmontaient la barrière, reposant apparemment sur le ventre comme en équilibre, une fraction de seconde immobile, aurait-on dit, jusqu'à ce qu'il bascula en avant,
tandis qu'un second, puis un troisième, puis plusieurs ensemble, tous figés, successivement en équilibre, dans cette position de cheval à bascule, apparaissent, s'immobilisent, s'inclinent en avant, retrouvant le mouvement en même temps que le contact avec la terre, le peloton galopant maintenant, de nouveau soudé vers les tribunes, grossissant, franchissant l'obstacle suivant. Puis ce fut là, l'espèce de tonnerre silencieux, la sourde réverbération du sol silence qui semblait les isoler, les quelques cris fusants de la foule paraissant, et non pas aux oreilles des jockeys, mais à celles des spectateurs eux-mêmes, parvenir de très loin, futile, vain, incongru, et aussi faible que des bégaiements inarticulés de petits enfants, les accompagner, laissant derrière eux, bien après leur passage, comme un persistant sillage de silence, à l'intérieur duquel le martèlement des sabots allait diminuant, s'amenuisant, seulement crevé sporadiquement par le claquement sec, comme le bruit d'une branche cassée, d'un coup de cravache, de minuscules détonations s'éloignant elles aussi décroissant. Mais la route des Flandres est un système de résonance absolue des processus entre eux.
Il faut demander alors à quelqu'un dans un auditoire d'aller faire une ligne au tableau. Et la première ligne qu'on trace, c'est une ligne légèrement montante et descendante, le schème le plus simple. Puis, quelqu'un d'autre vient et fait une ligne qui s'enroule et puis qui redescend. Et puis, il y a quelqu'un qui s'avise que cette ligne enroulée monte, puis qu'elle connaît un certain plateau, puis qu'elle monte tout d'un coup très fort, presque brusquement, qu'elle culmine, et puis qu'elle redescend très souvent en des sortes de craquements d'énergie. Et si vous avez un auditoire qui sait un peu de physiologie, vous dites, quoi, qu'est-ce que c'est cette structure-là? Et il y a toujours quelqu'un qui connaît un peu Master et Johnson et qui vous répond, c'est la structure de l'orgasme. Une montée, une phase en plateau, plus ou moins longue, une culmination, et puis un craquement en trou d'énergie. Et si on y songe, c'est la seule façon d'obtenir un processus qui totalise, mais en même temps, de totaliser des processus, de faire en sorte que tout ce conjoint crée des événements locaux qui émergent un instant et puis qui redisparaissent, puisqu'ils ne sont que des états-moments d'univers, par compatibilisation locale et transitoire et décompatibilisation de processus. Alors, quel thème va-t-on pouvoir mobilisé dans ce système? Eh bien, des thèmes qui aient exactement la même forme. C'est-à-dire qu'ils soient chaque fois une espèce d'émergence, disons la phallique, qui alors, ou bien de manière brusque, ou bien de manière étalée, rentre dans quelque chose du terrain. Et voici les 6 ou 7 thèmes qui seront bien sûr en même temps des disques, des boucles de la route des Flandres. Les chevaux, thème phallique, dans la nuit, et dans la nuit qui est pluie, nous venons de le voir. Le cheval de l'officier qui va gagner la course, de l'officier Reichach, dont le nom lui-même est un éclat en hauteur, mais qui finit par la perdre, à la guerre même. L'officier Reichach maintenant, à cheval, donc il y a le cheval, il y a l'officier, et puis il tire encore son sabre, marchant entre des maisons en feu et puis s'effondrant. Ou encore, maintenant qu'ils ont été faits prisonniers, les prisonniers dans le wagon, avec au-dessus d'eux des chevaux, et eux-mêmes écrasés par ces formes émergentes. Ou les prisonniers travaillant dans le charbon, thème éminemment utérin, et pour prendre quelque chose dans un ordre sémiotique beaucoup plus abstrait, un tableau de famille d'ancêtres, avec une forme donc émergente, mais qui s'écaille. Ou encore, toujours pendant la drôle de guerre,
une grange, avec dedans des soldats couchés épuisés, et la fille de ferme qui se promène parmi eux, ambiguë, ni masculine ni féminine. Puis ils furent dans la grange, avec cette fille tenant la lampe au bout de son bras levé, semblable à une apparition. Cette sorte de tiédeur, pour ainsi dire, ventrale, au sein de laquelle elle se tenait, irréelle et demi-nue, à peine ou mal réveillée, les yeux, les lèvres, toute sa chair gonflée par cette tendre langueur du sommeil, à peine vêtue, jambes nues, pieds nus malgré le froid dans de gros souliers d'homme palacés, avec une espèce de châle en tricot violet qu'elle ramenait sur sa chair laiteuse, le cou laiteux et pur qui sortait de la grossière chemise de nuit, dans cette nappe de lumière jaunâtre de la lampe qui semblait couler sur elle à partir de son bras levé, comme une phosphorescente couche de peinture, jusqu'à ce que, ouac ! Effectivement, il y a un personnage qui, très astucieusement, s'appelle Wack, et qui permet parfois, après ces immenses levées de la patte, de provoquer un brusque effondrement jusqu'à ce que Wack, et d'ailleurs Wack est annoncé par le jusqu'à ce que Wack ait réussi à allumer la lanterne, et alors elle souffla la lampe, se détourna, et sortit dans le petit jour bleuâtre semblable à une taie sur un œil aveugle, sa silhouette se découpant un instant en sombre, etc. Alors, ces thèmes vont se succéder? Absolument pas. Il va y avoir d'abord le thème 8, puis le thème 14, puis le thème 6, puis, je ne sais pas, le 12, puis tout d'un coup, de nouveau le 8, qui est repris à un autre moment de la durée, et puis le 4 ou le 20. Ainsi, pendant la bataille, il y a un cheval qui s'enfonce dans la terre, et on le retrouve toutes les 40 pages environ. Le cheval, ou plutôt ce qui avait été un cheval, toujours ce thème phallique, mais que nous revoyons maintenant rentrer dans le sol utérin, et qu'il faut dire plus nettement vulvaire. Le phénomène est assez rare pour être signalé. Tout Claude Simon s'engendre, monte et redescend à partir de ces quatre mots qu'il a enchaînés lui-même, moule, poule, pulpe, vulve. Une phonie de lèvres, pas de fente, ni de trou. Le cheval, ou plutôt ce qui avait été un cheval, était presque entièrement recouvert, comme si on l'avait trempé dans un bol de café au lait, puis retiré, d'une boue liquide et gris-beige, déjà à moitié absorbée, semblait-il, par la terre, comme si celle-ci avait déjà sournoisement commencé à reprendre possession de ce qui était issu d'elle, n'avait vécu que par sa permission et son intermédiaire, c'est-à-dire l'herbe et l'avoine dont le cheval s'était nourri, voilà notre chimie, hein, et était destiné à y retourner, s'y dissoudre de nouveau, le recouvrant donc, l'enveloppant, à la façon de ces reptiles qui commencent par enduire leur proie de lave ou de suc gastrique avant de les absorber, de cette boue liquide sécrétée par elle et qui semblait déjà comme un sceau, une marque distinctive certifiant l'appartenance, avant de l'engloutir lentement et définitivement dans son sein, en faisant sans doute entendre comme un bruit de succion. Pourtant, quoiqu'il semblât avoir été là depuis toujours, comme un de ces animaux ou végétaux fossilisés retournés au règne animal, avec ses deux pattes de devant repliées dans une posture fœtale d'agenouillement et de prière,
à la façon des membres antérieurs d'une mande religieuse. Son cou raide, sa tête raide et renversée, dont la mâchoire ouverte laissait voir la tache violette du palais, il n'y avait pas longtemps qu'il avait été tué. Donc on l'aura compris, il n'y a pas de métaphore, pas de métonymie et pas de comparaison. Quand on emploie un comme ou un ainsi que, c'est pour mettre deux processus en résonance l'un avec l'autre. Mais il n'y a rien qui ressemble, par exemple, à l'océan des blés chez Victor Hugo. Mais il nous reste à voir, sans doute, comment maintenant un processus peut glisser dans un autre, ce qui demande une étonnante maîtrise de la syntaxe. Il y a ce passage-ci qui est peut-être suffisant. C'est toujours pendant la marche de nuit. Nous sommes donc dans le processus de la marche de nuit. Il est sur son cheval, il est dans la pluie glacée, mais nous glissons, pensant à son père, assis dans le kiosque aux vitres multicolores. Voilà déjà un autre thème. Au fond de l'allée de chêne où il passait ses après-midi à travailler, nous glissons d'un lieu à l'autre comme dans un kaléidoscope. Couvrir de sa fine écriture raturée et surchargée les éternelles feuilles de papier qu'il transportait avec lui d'un endroit à l'autre dans une vieille chemise au coin corné. Mais ce soir-là, comme une sorte d'inséparable complément de lui-même, encore étalé pêle-mêle sur la table d'osier par-dessus la chemise, les précieux papiers qu'il avait apportés comme chaque jour, mais qui se trouvaient encore à l'endroit même où il les avait posés en arrivant au début de l'après-midi. Les journaux en désordre et froissés à force d'avoir été relus, retenant encore dans la pénombre du kiosque la lumière du crépuscule d'été, nouveau glissement, à travers lequel parvenait le halètement paisible du tracteur. Voilà le thème orgastique par excellence. Le métayer finissant de faucher la grande prairie. Le bruit du moteur s'emballant, s'exaspérant quand il remontait la pente de la colline, rageur, dominant leur voix, puis parvenu en haut, se relâchant brusquement, s'effaçant presque tandis qu'il passait derrière le bouquet de bambou en tournant, redescendait la pente, tournait encore, longeait le bas de la colline, puis se précipitait, se ruait à nouveau. Le moteur s'arc-boutant semblait-il à l'assaut de la pente, et Georges savait alors qu'il allait peu à peu le voir apparaître, s'élevant, se hissant, avec cette irrésistible lenteur de tout ce qui, de près ou de loin, et de quelque espèce que ce soit, hommes, animaux, mécaniques, touche aux choses de la terre, est sorti ville et jardin de ma tasse de thé. Alors qu'écrire après la route des Flandres, qui est un processus complet, la résonance absolue, sans doute reprendre des parties, des cycles de la route des Flandres, et peut-être comme vient de le faire Claude Simon, est-ce que c'est tout à la fin, reprendre une dernière fois tous les thèmes, à peu près, de la route des Flandres dans l'acacia, dont la ramure, le feuillage, exprime bien le processus ou les processus généralisés. Avec l'acacia se clôt le périple de Claude Simon et se clôt également notre périple à nous. 9 siècles depuis la chanson de Roland, nous nous arrêtons conventionnellement aux auteurs nés avant 1925. Après,
peut-on croire, commence la contemporanéité qui demande une autre approche. Somme toute, la littérature française se prête bien à ce genre de parcours un peu monumental, parce qu'elle a elle-même quelque chose d'un monument. Les structures du français, les structures phoniques, sémiques, syntaxiques, en particulier ce filage du discours que nous avons vu naître avec la châtelaine de Vergy, fait que la voix interne de l'écrivain apparaît en français avec un dessin très, très tranché, très défini, comme une coupe franche de la réalité et du réel, en sorte que chaque écrivain pris en particulier, mais alors aussi tous les écrivains pris ensemble, forment un système. N'y a guère que la littérature grecque ancienne qui forme un système aussi cohérent. D'où on peut imaginer la bibliothèque de la Pléiade, où tout ce monde forme, comme le mot le dit, une constellation. Il n'est pas facile, il ne serait pas facile de faire une bibliothèque identique pour les littératures anglaise ou allemande ou indienne ou chinoise, si géniale qu'elle soit. Nous nous sommes limités, comme on l'aura vu, aux littérateurs extrêmes, c'est-à-dire aux écrivains qui ont fait du texte, de leur voix interne, une expérience vertigineuse. Et donc aussi, autant qui écrivaient d'abord pour eux-mêmes et seulement indirectement pour autrui. Et de là, sans doute, certaines absences, dont la plus frappante est celle de Voltaire, qui est un écrivain immense, tout à fait majeur. Mais justement, Voltaire est quelqu'un qui a normalisé le français comme français. Et il a alors institué une certaine attitude d'esprit qui était attachée à cette langue ainsi normalisée. Et pour autant, il n'est jamais vertigineux. Il ne pratique jamais ce vertige que Montesquieu, ou Rousseau, ou Diderot, ou Sade pratique autour de lui. Puis il n'écrit pas d'abord pour lui. Il est toujours devant autrui. C'est le plus grand des journalistes au sens de Proust. Tandis que la situation de Malherbe, qui est le premier régulateur de la langue, n'est pas du tout la même. Car celui qui, en 1620, découvrait et inventait littéralement le français moderne, lui voyait une aube, une aurore. Et par conséquent, il travaillait dans une extase, avec un certain foudroiement qu'on va retrouver chez Corneille et chez Descartes immédiatement après. Alors il faut conclure ce périple. Et comment conclure un périple sinon en repartant du début, comme Claude Simon? Eh bien, le plus ancien document connu de notre langue, c'est la Cantilène de Sainte-Eulalie. Elle est un peu avant 900, ce qui fait 11 siècles. Écoutons bien, car c'est déjà toute la structure dont le reste a pu sortir. J'y prends les vers qu'a retenu Mallarmé. Elle nante, escoltet les mals conseillers. Quel deoranein qui m'aen sus en ciel. Ne por or, ne d'argent, ne paramens. Por manas regiel ne preimen, nulle cause non la pauvre templier, la palle sempre non amas, lo deo menestier. Eh bien, voilà presque tout. L'accent sur la fin du groupe phonétique. L'égalité des syllabes. La substantivation abstraite. La relative très marquée. Les articles distincts. Bref, le sarment sur lequel, deux siècles plus tard, on a pu voir, nous avons pu voir, surgir la substantialité à la fois massive et ouverte, rappelez-vous, de Carl Schlierhuis Nostrum Pereire Magnus, le formidable démarrage phonique, sémique et syntaxique de la chanson de Roland. On verra bientôt le manuscrit porteur de cette cantilène natale, le fameux manuscrit 150 de la bibliothèque de Valenciennes,
à la Bibliothèque nationale, qui s'apprête à célébrer 1000 ans de littérature française.
Bon, alors, où sont les chocolats ?